créée en 88 à Briançon, Arnica Montana est une association scientifique, loi 1901, pour la connaissance et la protection des milieux naturels des Hautes-Alpes, qui œuvre dans différents domaines comme la botanique, les lichens, la faune, l'écologie, la géologie ou encore la bio-indication de la qualité de l'air du territoire. Chaque premier vendredi du mois, retrouvez Claude Rémy, président d'Arnica Montana, afin de découvrir ou redécouvrir notre territoire.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du printemps chez les végétaux et les animaux. C'est le printemps. La durée des jours augmente. Les températures deviennent plus clémentes. La nature se réveille. Les bourgeons des arbres s'ouvrent pour laisser progressivement apparaître les feuilles. Les fleurs s'épanouissent. Les oiseaux chantent. C'est bientôt le temps des naissances chez les animaux. Quels sont les principaux facteurs qui permettent le réveil de la vie au printemps? Nous allons commencer par les végétaux. Évidemment, la durée de l'éclairement et l'augmentation des températures jouent un rôle déterminant dans la phénologie d'un végétal et d'un animal, c'est-à-dire dans le déclenchement de chaque étape de son développement. Le début de chaque stade phénologique peut varier d'une année sur l'autre. Prenons l'exemple d'un site de Villars-Saint-Pancras près de Briançon, où Arnica Montana suit depuis plus de 14 ans les étapes de développement de quelques arbres. Au printemps 2020, nous avons noté en février-mars une avance d'environ 10 jours pour la floraison des noisetiers par rapport à 2019 et une avance de près de 1 mois par rapport à 2018. Notons que chez les noisetiers, la floraison a lieu avant l'apparition des feuilles. Les fleurs mâles qui libèrent le pollen sont ce que l'on appelle communément les chatons qui sont de couleur jaune. Les fleurs femelles sont rouges et beaucoup plus petites. Au contraire, en 2020, l'ouverture des bourgeons s'est faite avec 3 semaines de retard par rapport à 2019 et 2018, le 11 mai en 2020 contre le 22 avril en 2018. Les températures plus basses en mars-avril 2020 ont entraîné un ralentissement, voire un blocage des stades de développement du végétal. La température est donc un facteur déterminant pour le réveil de la végétation. À la fin de l'hiver, les plantes ont besoin d'accumuler une certaine quantité de chaleur pour se développer. Mais pour cela, la température doit dépasser une valeur seuil, souvent de 0 à 5 degrés. Chaque jour, la plante cumule les degrés au-dessus de cette température seuil jusqu'à atteindre la quantité de chaleur permettant de déclencher un stade de son développement, comme par exemple l'ouverture des bourgeons ou la floraison. Cette somme de chaleur se mesure en degrés jour. Elle correspond à la somme des températures moyennes journalières supérieure à la valeur seuil. Prenons quelques exemples. Le pin sambreau, qui pousse entre 1800 et 2400 mètres d'altitude, doit accumuler 83 degrés jour pour fleurir à partir du moment où la température dépasse 0 degré. Cette température 0 degré est donc la température seuil. Cela peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines selon la valeur de la température au-dessus du seuil. Le mélèze, qui est connu également dans le Briançonnais, n'a besoin que de 9 à 34 degrés jour pour ouvrir ses bourgeons, donc bien moins que le pin sambreau. Au printemps, les aiguilles de mélèze se développent donc très rapidement dès que la température devient positive, ce qui a été le cas lors des printemps 2012, 2017, 2019. L'intensité du froid hivernal peut modifier la quantité de chaleur dont a besoin la plante. Par exemple, une période de grand froid réduit la quantité de chaleur dont a besoin l'épicéa pour développer ses aiguilles. Sous nos latitudes, les graines ne peuvent germer que si elles sont soumises à une certaine humidité et à une température clémente. Mais souvent, cela ne suffit pas. Ces graines doivent avoir subi au préalable une durée suffisante de froid hivernal. C'est ce que l'on appelle la dormance. La dormance permet d'éviter que les graines ne germent trop tôt par une belle journée d'automne. La fragile plantule gèlerait alors au premier froid de l'hiver. C'est pour cette raison que lorsque l'on prélève des graines dans la nature ou dans un jardin, ces graines ne germent généralement pas si on les sème au printemps. Pour qu'elles puissent germer, il suffit de les semer à l'automne ou de les placer quelques semaines dans un réfrigérateur, ce qui simulera le froid de l'hiver et lèvera la dormance. La durée des jours ou photopériodes est également un facteur non négligeable pour plusieurs phénomènes biologiques, en particulier pour l'aptitude à fleurir. Mais comme les graines, les bourgeons floraux doivent également, le plus souvent, subir une durée de froid hivernal pour pouvoir s'ouvrir. Pour certaines plantes dites de jour long, la durée du jour, ou éclairement, doit dépasser une valeur critique pour que la plante puisse fleurir. Cette valeur est de 10 à 11 jours pour la jusquiane noire et de 11 à 14 heures pour le 10 à 11 heures pardon pour la jusquiane noire et pas jour et de 11 à 14 heures pour le fenouil. Les plantes dites de jour long sont en général celles qui fleurissent à la fin du printemps ou au début de l'été. Certaines plantes dites de jour court ne peuvent fleurir que si la durée des jours est inférieure à une certaine valeur. C'est le cas du dahlia et des chrysanthèmes. Ce sont en général des plantes qui fleurissent en automne. Certaines plantes sont indifférentes à la durée de l'éclairement pour pouvoir fleurir, à condition qu'il y ait quand même suffisamment de lumière pour que la photosynthèse puisse avoir lieu. Mais l'aptitude à fleurir d'une plante dépend également de son âge, de la température et des conditions de nutrition. Bien entendu, les différents facteurs climatiques, en particulier la durée des jours et la température, agissent simultanément. Prenons encore un exemple. Les sorbiers, arbustes qui sont très fréquents dans notre département, détectent l'allongement des jours au printemps, mais c'est la température subie pendant l'hiver et au début du printemps qui déclenche l'ouverture des bourgeons. Si, comme nous l'avons vu, les graines ont besoin d'une température douce pour germer, la lumière est favorable à la germination de la plupart des semences. C'est le cas des plantes aquatiques dont les graines ne germent pas à de grandes profondeurs d'eau. C'est également le cas de ce que l'on appelle communément et abusivement d'ailleurs les mauvaises herbes, qui poussent en masse dans un champ récemment labouré. Par contre, certaines graines ne peuvent germer qu'à l'obscurité. C'est le cas du lierre ou des plantes de la famille des lys. Le réchauffement climatique, conséquence de polluants émis par l'homme, entraîne une modification de la phénologie des végétaux, d'où l'intérêt de suivre leurs étapes de développement chaque année. Le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, le CREA, lance depuis plusieurs années un suivi des stades phénologiques de plantes communes. Ce suivi, appelé programme Phénoclim, est très simple à mettre en place et toute personne intéressée peut y participer. Ce suivi est également très intéressant à mettre en place en milieu scolaire. Arnica Montana participe à ce suivi depuis 14 ans et vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations. Nous venons de voir que le réveil des végétaux au printemps dépend en grande partie de la variation de facteurs climatiques, en particulier la variation de la durée des jours et de la température. Nous allons maintenant voir, à partir de quelques exemples, que les animaux sont également sensibles à ces paramètres. Comme nous l'avons dit en introduction, le printemps est généralement la saison des naissances pour les animaux. En effet, en naissant au printemps, les jeunes seront assez âgés et résistants pour avoir plus de chances de supporter les rigueurs de l'hiver suivant. La reproduction et le cycle des animaux sont donc conditionnés en grande partie par les saisons. Comme chez les végétaux, les variations de température et de la durée des jours sont déterminantes. Le printemps est annoncé par la reprise du chant des oiseaux. Dès janvier, alors que la durée des jours commence à augmenter, la mésange charbonnière débute ses manifestations vocales. Écoutons maintenant la mésange charbonnière, que l'on peut d'ailleurs entendre dès janvier. On peut l'entendre dès début janvier, voire vers le 15 janvier. Chez les oiseaux, c'est en général le mâle qui chante pour délimiter un territoire de reproduction et pour tenter de séduire une femelle. La reprise du chant est provoquée par l'augmentation de la sécrétion d'une hormone, qui est la testostérone. Cette hormone est fabriquée par les testicules, qui sont également responsables de la fabrication des cellules reproductrices mâles, appelées spermatozoïdes. L'activité des testicules est contrôlée par d'autres hormones issues d'une petite glande située à la base du cerveau, que l'on appelle l'hypophyse. L'hypophyse est elle-même contrôlée par une zone du cerveau située juste au-dessus d'elle, de l'hypophyse. Cette zone du cerveau, c'est l'hypothalamus. Pour étudier l'influence de la lumière sur l'activité des testicules, deux chercheurs, Benoît et Hassenmacher, placent dans les années 1950 des canards dans un milieu où l'éclairement quotidien est artificiellement prolongé à 15 heures par jour. Après 20 jours d'expérience, les deux chercheurs remarquent alors que le volume des testicules de canard a plus que doublé. Ils refont l'expérience en enlevant l'hypophyse des canards. Les testicules des malheureuses bêtes ne changent pas de volume. L'hypophyse est donc un relais indispensable entre les yeux, le cerveau et les testicules de canard. Finalement, l'augmentation de la durée des jours au printemps stimule le cerveau des oiseaux, qui augmente l'activité de l'hypophyse, stimulant à son tour la sécrétion de testostérone par les testicules, ce qui déclenche le chant des oiseaux. La reproduction chez les mammifères est également conditionnée, au moins en partie, par la durée des jours. Certains animaux, que l'on pourrait qualifier de jours longs, commencent leur parade au printemps. C'est le cas des loups. Rappelons que les loups présents en France sont revenus de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été réintroduits, dans les années 1990, comme l'attestent des études scientifiques. Les loups vivent en meute de 6 à 8 individus. Dans une meute, seul le couple dominant se reproduit. L'augmentation de la durée des jours stimule la glande pinéale, qui est une petite glande située entre les deux hémisphères cérébraux. Cette glande pinéale stimule à son tour l'hypophyse, qui libère alors dans le sang des hormones provoquant l'ovulation de la louve dominante. Le cycle de reproduction de la louve dépend donc des saisons afin de permettre la naissance des louveteaux au printemps, au moment le plus favorable à leur survie. Chez le chamois, au contraire, c'est la diminution de la durée des jours qui provoque chez le mâle une augmentation de la sécrétion de testostérone, responsable en grande partie du comportement reproducteur du bouc. Le rut du chamois a donc lieu en automne. La période de gestation, très longue, permet les naissances au début du printemps, assurant aux chevreaux d'être suffisamment résistants pour affronter les hivers rigoureux en montagne. Comme pour les plantes, il existe donc des mammifères à jour court et des mammifères à jour long. Le déclenchement des mues ou changement de plumage ou pelage sont également conditionnés au moins en grande partie par les saisons. Le lagopède, appelé parfois perdrix des neiges, est un oiseau qui vit en altitude. Il est malheureusement d'ailleurs de plus en plus rare. Il subit 3 mues annuelles et prend en hiver un plumage blanc, très serré, très isolant du froid, et qui permet à l'oiseau de passer inaperçu des prédateurs lorsqu'il est sur la neige. Chez le lagopède, le déclenchement de la mue d'automne semble être provoqué par la diminution de la durée relative des jours et par l'abaissement des températures. Pour les insectes, dont l'activité dépend de la température extérieure, il existe pour chaque espèce un seuil de température qui commande le démarrage de l'activité. Ce seuil est de 10 degrés pour les abeilles. Le réchauffement climatique allonge la saison d'activité des insectes. L'entrée et la sortie de la vie ralentie des insectes, on appelle la diapause, pendant la mauvaise saison dépend de plusieurs facteurs comme la durée des jours, la température, la nourriture disponible. L'importance de chacun de ces facteurs varie selon les espèces. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, depuis le début du XXe siècle, on constate un réchauffement climatique causé par l'homme. Ce réchauffement climatique perturbe les cycles saisonniers des végétaux et des animaux. Selon leur sensibilité à la durée de l'éclairement ou à la température, il y a une sorte de désynchronisation de l'activité des prédateurs et de leurs proies. Par exemple, le pic d'apparition des chenilles dont se nourrissent les oisillons de gobe-mouche noire a avancé de 16 jours entre 1985 et 2003. La date de ponte de l'oiseau seulement de 10 jours. L'éclosion se fait alors qu'il y a moins de nourriture disponible, d'où une baisse des populations de gobe-mouches de 90% en 20 ans. Espérons que les décideurs prendront enfin des mesures pour résoudre ces problèmes environnementaux avant que les déstabilisations des chaînes alimentaires ne soient trop importantes, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard.